9, le magazine.
Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Les cris de la terre et de la nature, thème de cette émission, qui a eu pour origine le fait suivant. Le samedi 5 mars 2016, Antenne 2, dans la série remarquable 13h15, diffuse une émission au titre interrogatif « Paysan, la jacquerie ?» point d'interrogation. Fourche en bois à la main, béret sur la tête, Dominique Pipet se recueille avec deux éleveurs de la Vienne sur la tombe du soldat inconnu. Ainsi commence l'émission. Il observe une minute de silence en hommage aux centaines de paysans anonymes qui se suicident chaque année en France. Des paysans inconnus, morts au champ d'honneur, au cours d'une guerre économique. Puis nous le retrouvons à Charroux dans la Vienne, avec ses deux voisins. Manifestation silencieuse avec une vingtaine de maires, des artisans, des commerçants, des citoyens, même le curé est là. Puis dans l'émission, il y rencontre approfondie avec une famille de paysans. C'est un document exceptionnel, une guerre oubliée, des tragédies de femmes et d'hommes, d'enfants peu connus. Dominique dit « Moi je suis ici avec la fourche, symbole de la jacquerie. Les guerres sont parfois gagnées par des petits soldats quand les généraux ne sont plus là. » Mais écoutons, Dominique, un petit extrait de cette émission.
Il est anormal que des gens en France qui se lèvent tous les matins pour travailler, qui produisent de la richesse, parce qu'il est quand même reconnu que les paysans sont des producteurs de richesse. Nous arrivons juste derrière l'aéronautique. Alors comment nous expliquer que des gens qui se lèvent tous les matins, tous les jours de l'année, pour produire de la richesse pour leur pays, ne puissent plus subvenir à leurs dettes et honorer leurs factures. C'est tout simplement inadmissible. Je dirais que ces paysans sont des producteurs de richesse, des employeurs de main-d'œuvre et aussi des producteurs de bonheur. La richesse, on en a parlé, pour les autres, pas pour les paysans, malheureusement. Producteurs de bonheur, pourquoi ? Parce que vous tous, quand vous avez un événement heureux à fêter, vous invitez votre famille, vous invitez vos amis ou autour d'une bonne table. Et sur cette table, vous avez la richesse d'un pays qui s'appelle la France, et que ce soit du Périgord à la Bretagne, il y a des produits régionaux exceptionnels. Et on se fait plaisir autour d'une table avec la famille et les amis. Alors oui, les paysans français sont des producteurs de bonheur. Et par les temps qui courent, un peuple de paysans qui produit de la richesse, qui produit de l'emploi et qui produit, qui plus est, du bonheur, je pense que ça devrait au moins se respecter. On nous dit, enfin, je commencerai à dire que les paysans sont les premiers, le matin, à éclairer le pays France. Parce qu'avant que le jour se lève, les salles de traite sont allumées. Et partout, des Pyrénées, aux Ardennes, à la région d'Auvergne, à la Bretagne, et sans oublier bien sûr le Poitou-Charentes, partout en France, ces paysans sont debout, et comme des fourmis, ils s'activent à leur besogne. Tout ça, justement, pour produire des richesses. Parce que ces paysans, avec leur courage, avec leur ténacité, ils ont travaillé des terres, et avec de la terre simple, leur savoir-faire et leur sueur, ils produisent de la richesse dans de l'herbe, l'herbe qui devient du lait ou de la viande, et pour nourrir notre population. Et ça, aujourd'hui, il va être temps de redonner quelques centimes aux agriculteurs pour arrêter ces suicides catastrophiques.
Voilà, la voix de Dominique, vous avez compris déjà quel personnage est Dominique. Venu de l'ouest de la France, où le monde paysan est beaucoup plus présent que dans le sud-est, ayant vécu dans ce monde rural par mon père, artisan et artiste, très sensible à ce que Parole d'écriture, cette émission que vous écoutez, soit destinée, je vous le rappelle, aux 100 voix VOIX et aux 100 voix VOIES, Je décide alors de consacrer une émission, celle de ce jour, aux cris de la terre et de la nature. Voilà l'histoire de cette émission. Pour cela, nous allons accueillir en studio Marianne Popa, qui vient de Roumanie, merveilleux pays, membre de la francophonie. Je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont peut-être oublié. La Roumanie, un pays de culture, d'art et d'artistes connu dans le monde entier. Je citerai seulement ici Zanfirescu, joueur de flûte mondialement connu. Marianne est en France depuis 18 ans, mais son premier voyage date d'il y a 32 ans. À l'origine, c'est un musicien, un joueur de flûte de pan, renommé, très connu dans son pays. Il décide à un moment donné de vivre en France, mais pour survivre, pour vivre, il devient polyvalent. Ses talents sont très variés. Cependant, il produit encore des flûtes et aime les concerts. Bientôt, il va solliciter la nationalité française, tout en gardant sa nationalité d'origine. Il réside sur la corniche des Oliviers à Grasse. Quel beau nom pour un chemin. C'est à Marianne, fière de son pays, amoureux de la France, qui a bien connu ce monde de la terre dans lequel il a été élevé, que nous avons demandé d'être en studio avec sa flûte de pan pour nous accompagner. La flûte de pan dont on a retrouvé les traces il y a 2000 ans, la flûte de temps, je vous le rappelle, qui nous incite à la résistance face à l'adversité et qui nous invite à travailler à l'ordre là où il y a des ordres. Bonjour Marianne.
Bonjour Michel. Alors, voilà, bonjour à votre auditeur de Radio Avgora FM, grâce.
Merci Marianne. Dans un instant, nous allons vous écouter à travers plusieurs morceaux. Mais pour cette émission, nous allons aussi accueillir Alex. Alors ce matin, je suis allé dans le Pays de Grâce historique recueillir un bref entretien avec Alex. Alex vit dans le Pays de Grâce. Il est un digne successeur de Pierre le Migrant. Il y a trois livres que Daniel Baudot, que nous avons reçus récemment, que Daniel a consacré à Pierre le Migrant, qui est une très très belle histoire de migrants dans notre pays. Alex vient d'Angleterre. Après des études de biologie, il s'installe en son compte, avec sa famille, ici, proche de nous, dans le Pays de Grâce, il y a 5 ans déjà. Alors nous allons l'écouter, et puis je vous informe déjà qu'en seconde partie, nous aurons en direct Dominique Pipet de Charroux, dans la Vienne. Ce sera un document inédit qui prolonge l'émission d'Antenne 2. Mais commençons par écouter Alex et son témoignage du Pays de Grâce. Bonjour Alex, et merci de nous recevoir dans le Pays de Grâce historique, où vous êtes depuis quelques années comme paysan agriculteur, mais paysan qui fait du bio, qui fait des légumes, qui fait des fruits et qui vendait directement aux consommateurs sous forme de panier. Alors vous êtes sur un secteur original qui apparemment est porteur. Quels sont les obstacles auxquels vous heurtez? Quelles sont vos difficultés?
Les difficultés du métier,
oui,
en
c'est
général
ça. Oui.
C'est dur, c'est un travail qui est souvent pénible, physiquement, surtout en été, quand il fait chaud. Plus il fait chaud, plus c'est dur, souvent. Donc il y a ce côté-là qui est difficile. Après, c'est mal rémunéré aussi, à mon échelle en tout cas, à une petite échelle. Je suis mal payé pour mon travail. Donc ça, c'est les principales difficultés que je rencontre.
Un travail très dur, pénible, et une rémunération insuffisante, en l'occurrence. C'est bien ça.
C'est ça.
Alors, quels sont les bonheurs que vous prenez dans votre métier? Vous prenez quand même du bonheur.
Bien sûr, sinon je ne le ferais pas. Mais bon, c'est un métier qui amène beaucoup de satisfaction, de pouvoir produire, de pouvoir vivre de quelque chose qu'on produit avec ses mains, qui vient de la terre. C'est très gratifiant. Et bon, je suis mon propre patron aussi. Ça, c'est très important pour moi. Donc, par contre, un autre inconvénient, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un côté positif, parce que ça stimule mentalement. Ça demande énormément d'organisation, ce travail. Donc, d'un côté, c'est une bonne stimulation mentale. C'est un bon équilibre entre le physique et le mental. Mais bon, ça, le niveau d'organisation que ça demande, du coup, ça provoque un stress, un sous-courant de stress permanent dans le travail, surtout en été.
Et alors, si c'était à refaire, vous le referiez?
Oui, oui, oui. Je le referais, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, améliorer pour que ça soit mieux reconnu, mieux valorisé et que vous puissiez vivre plus décemment?
Alors, c'est en train de se passer. Ça va dans le bon sens, je pense. Je trouve... Maintenant, les gens, ils sont prêts à payer plus pour des légumes de qualité. Ils reconnaissent la qualité. Récemment, le prix des légumes ont été, en tout cas les prix des légumes de qualité, ça a été dévalorisé par des légumes de mauvaise qualité, souvent, qui viennent d'ailleurs, de très loin aussi. Et bon, c'est donc les importations de un peu partout dans le monde. Donc c'est un peu à cause des supermarchés, je pense aussi. La logique de le moins cher, toujours chercher le prix le moins cher. Je pense qu'on perd beaucoup quand on fait ça. Donc voilà, mais les gens, ils sont en train de se rendre compte que, en fait, c'est. Ils sont prêts à mettre le prix quand il s'agit d'acheter une alimentation de qualité et quand ils savent que ça vient d'à côté aussi et pas de l'autre bout du monde et tous les côtés positifs environnementaux qui vont avec ça.
Autrement dit, votre pari d'un travail personnel, local, bio, de qualité, comme vous dites, commence à produire ses fruits.
Oui, ça commence tout juste après 5 ans.
Ouais,
après
5 ans,
ça commence à produire. Ouais, ouais.
Et je pense que la crise actuelle du monde agricole au sens large est un encouragement indirect pour vous. Les gens se disent, oui, si on veut de la qualité, il faut payer plus, et c'est normal.
Ouais, ouais, exactement. Et il y a plein d'effets positifs qui viennent de là. Plein.
Autrement dit, la crise vous conduit à une renaissance personnelle du travail que vous faites.
Un petit peu, ouais, ouais, c'est un petit peu ça. Ouais.
Donc il faut tenir.
Oui, 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 oui.
Et la famille, tiens?
Oui, alors, j'ai une femme qui travaille aussi, donc elle a ça c'est pas plus mal, un salaire fixe tous les mois. Mais sinon, oui, ça permet de vivre dans un cadre assez exceptionnel pour moi et ma famille, et surtout pour les enfants, c'est vraiment merveilleux pour eux de grandir dans cet environnement.
D'accord. Alors, si vous aviez en conclusion quelque chose à dire pour encourager ce qui, d'un côté, c'est vraiment les cris de la terre et du monde paysan, mais il y a aussi des espoirs de la terre et du monde paysan, puisque, comme vous dites, toucher à la terre, la traiter, à la limite la caresser, avoir de la tendresse pour la terre, c'est rentable.
Oui, c'est là qu'on la comprend, vraiment, quand on est près de la terre et qu'on a vraiment les mains dedans et qu'on... On observe toutes les choses qui vont avec, les insectes, les mauvaises herbes. C'est là qu'on vraiment on a une bonne compréhension de son exploitation de la terre. C'est extrêmement important.
Autrement dit, si je comprends bien, vous allez me dire si je me trompe ou pas, en maintenant la terre vivante et en l'entretenant dans son vivant, vous permettez au vivant d'être plus vivant.
Oui, bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord là.
C'est ça. Alors merci et continuez, 5 ans déjà, alors vous avez des projets pour les 5 ans qui viennent.
Oui, alors pour les 5 ans qui viennent, je veux m'améliorer dans mon travail parce que j'ai appris sur le tas, donc ça, c'est une des raisons que ça a pris tellement longtemps d'ailleurs.
C'est l'apprentissage sur le terrain.
Oui, mais on peut le faire, donc ça c'est encourageant pour les autres s'ils veulent se lancer. N'importe qui peut le faire, même les gens entre guillemets de la ville, n'hésitez pas, c'est possible, il faut s'accrocher, il faut être passionné par ça aussi, il faut aimer le vivant, les plantes, mais c'est possible.
Sans augmenter pour autant votre surface de travail, vous voulez que la surface que vous avez soit plus rentable, mais au sens le plus beau du terme, dans le bio, dans la qualité, et que vous puissiez la faire fructifier au mieux.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup Axel.
Merci à vous.
Voilà le témoignage d'Alex, et je rappelle à vous, chers auditeurs, mais vous le connaissez sans doute, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne et biologique, AMAP, A-M-A-P. Vous regardez sur le site, vous verrez l'adresse la plus proche de chez vous, et vous pouvez aller chercher un panier régulièrement, et donc à votre manière, vous pouvez encourager ces paysans qui sont en train de réinventer le monde paysan. Ce monde paysan qui, dans notre société, est en crise, comme toute notre société, mais aussi, nous allons le voir dans un instant, pour le monde entier. Mais si la crise, en France ou ailleurs, détruit, décompose, établit des rapports de force redoutables, il y a aussi des pépites de renaissance. Et là, elle débute avant tout par le citoyen, au-delà de tous les clivages sociaux, politiques et autres. Alex nous dit, son dur labeur s'est revenu modeste, insuffisant, mais aussi sa passion pour la terre, pour produire le bio, le vrai, car désormais il y a tant de falsifications, de qualité dans la valorisation de la terre et pour le service des hommes. Mais sachez, chers auditeurs, que cette fin de des paysans, elle a été annoncée dès 1967 par un livre remarquable d'Henri Mandras, qui, avec le titre audacieux « La fin des paysans », a suscité alors un débat impressionnant. Ce livre a été réédité dans la série récente collection de poches Babel, et je vous invite à le lire et le relire. La thèse d'Henri Mandras est celle-ci. La France a vu disparaître, à la fin du XXe siècle, une civilisation millénaire constitutive d'elle-même, et depuis il reste dans les campagnes des agriculteurs producteurs, obéissant aux règles du marché, de la technique. Il y établit un diagnostic sévère, mais sa thèse en fait est confirmée avec le temps. Entre la fin du monde paysan tel qu'elle existait autrefois, entre les agriculteurs salariés prisonniers des conditions de production et de vente, nous allons le voir dans un instant en Inde par exemple, surgissent des renaissances. Alex est un nouveau paysan, mais il y en a plein d'autres. Et sachez que ce n'est pas les paysans eux-mêmes qui trouveront les solutions, c'est chacun d'entre nous, citoyens. Mais j'insiste, avant d'écouter Marianne, cette dimension, cette crise, elle est mondiale. Et pour votre information, sachez qu'en Inde, 250 000 agriculteurs se suicident chaque année dans certains coins pour des raisons d'ONG, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici par manque de temps. Il y a certes le débat mondial de nourrir tous les habitants de la planète, mais il y a aussi le débat qui est lié à la terre, à la qualité, au respect du biologique et donc du vivant, et de bien les nourrir. Alors, voici ce débat qui n'en cesse de s'amplifier, de se développer. La crise s'amplifie, mais je vous le donnerai dans la note de synthèse qui accompagnera cette émission. Il y a un très beau livre qui vient de sortir avec les paysans du monde. Je vous en donnerai les références. C'est le deuxième livre que je vous conseillerai avec la fin des paysans. Mais maintenant, dans le temps qui nous reste, nous allons écouter Marianne avec l'Orchestre National de Roumanie. Et nous allons écouter un premier morceau avec orchestre. Et c'est vous qui jouez de la flûte de Pan.
Oui, c'est moi.
Alors écoutons pour finir l'émission. D'accord. Chers auditeurs, pour cette seconde partie d'émission, nous allons donc accueillir Dominique Pipé. Mais avant de l'accueillir, il est déjà en ligne, je voudrais vous citer deux passages de sa lettre au président de la République que je trouve particulièrement forts. Il écrit ceci. Je pense à tous ces morts vivants, ceux dont la situation a fait exploser la famille en engendrant des divorces, qui les privent de leur enfant, le seul trésor qu'ils possèdent, ceux qui sont tombés dans l'alcool et les autres qui, comme des zombies, marchent aux antibiotiques. Et il écrit plus loin, « Je dédie ma révolte viscérale à tous les orphelins, aux enfants du divorce et à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette guerre qui ne dit pas son nom et qui fait 500 suicides par an dans la profession agricole. » Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Merci beaucoup, nous avons déjà entendu votre voix puisque j'ai pu extraire pour la première partie une courte intervention de vous dans cette émission qui était passée Antenne 2. Alors Dominique, selon la tradition de l'émission, je vais vous poser d'abord les quatre questions que j'ai envie de vous poser puis je vous laisse le temps nécessaire, celui de l'émission, pour répondre. Quelle est l'origine ou les origines de votre combat? Alors, quelle est votre lecture par ailleurs de la tragédie du monde paysan et des cris de la terre actuellement? Une autre question, c'est pourquoi une prise de conscience aussi faible? Et enfin, n'y a-t-il pas à traiter autrement la Terre? Y a-t-il pas des raisons d'espérer? On vous écoute, Dominique.
Bonsoir. Alors, les origines de, je dirais, de ma révolte. Sûrement le fait d'être né dans une famille humble de métayers. Les métayers, pour les gens qui ne connaissent pas le milieu agricole, ce sont des gens, on appellerait ça dans d'autres pays, des sans-terres. C'est-à-dire que mes parents ne possédaient pas de terre, ils travaillaient, et dans un système où vous redonnez au propriétaire la moitié du fruit de votre travail de l'année. Alors on avait tendance à dire une goutte de sueur pour nous, ou une goutte de sueur pour le patron. Voilà. Et ma famille avait pour seule religion le travail, et encore le travail. Et pour seule satisfaction, de savoir nos animaux repus. Voilà, notre devoir accompli. Certes, nous mangions à notre faim, mais il faut dire que c'était une autarcie assez sévère. Je dois le reconnaître. À l'époque, les paysans avaient le droit de faire du troc. Alors, je revois ma mère qui échangeait fièrement les œufs de la basse-cour contre une épicerie très basique et frugale. Je revois encore le camion de l'épicier gris qui s'ouvrait sur un côté après avoir abondamment klaxonné dans la cour de ferme. Pour Noël, nous avions quelques boules de chocolat et les premières clémentines. Mais nous étions heureux. Tout simplement heureux. Aujourd'hui, ces hommes, ces paysans de cette époque-là, pourraient passer, on dirait, dans les missions en terre inconnue. Parce que on n'imagine pas cette vie si près de nous. Et il y a 50 ans, des images qui me reviennent, il y a 50 ans, les paysans ne portaient pas de chemisettes. Ils avaient tous des chemises à carreaux. Dont ils retroussaient les manches à la belle saison, quoi. Je revois les avant-bras de mon père qui étaient brûlés par le soleil et érodés par les intempéries jusqu'au coude. Mais si vous dépassiez le coude, sous la chemise, les biceps étaient blancs comme du lait. Mon père m'impressionnait par sa capacité de travail physique et son pouvoir de communication avec son cheval de trait. Il faut dire que c'était le dernier dans le village à travailler avec un cheval. Comme ses collègues, il avait le visage buriné, les rides bien marquées. Et moi, du haut de mes 10 ans, ces paysans m'impressionnaient, me faisaient songer au rocher, vous savez, en limite de la mer, ces rochers qui contre la mer qui prennent les sacs d'eau et les bourrasques devant, sans jamais reculer. Mais pour ces paysans, le sel qui coulait sur leur peau venait pas de la mer, le sel qui coulait sur leur peau provenait de leur sueur. Alors je ne peux être qu'en admiration devant de tels héros qui donnaient leur vie pour nourrir le reste de la population qui, malheureusement, souvent, les méprisait. C'est sûrement de ce terreau de paysans besogneux qu'a germé ma révolte viscérale. Les injustices me taraudent les tripes, je dirais. Je suis comme ça.
Merci à Dominique. Pour mieux le connaître, je vous invite à aller sur Internet et à explorer ce qui y est sous couvert de Dominique Pipet, P-I-P-E-T. Des documents complémentaires à cette émission, fort intéressants. Nous allons maintenant écouter « Quelle est belle ma montagne » à la demande même de Dominique, et nous l'écoutons par plaisir et aussi pour le remercier de son intervention.
« Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle.
Partir des problèmes, des vécus, pour entrer en lecture est un chemin primordial. Il n'y a pas que le chemin des lectures puis ensuite de la réalité. Les ouvrages sur le monde paysan, sur la nature, sont très nombreux. Il y a d'abord les grands classiques, qu'il convient souvent de relire. Puis il y a des livres de base sur le domaine. Ce soir, nous avons fait deux choix. « La fin des paysans » de Henri Mandras, collection Livres de poche, Babel, 1984. Il comprend une postface de l'auteur fort intéressante. C'est un ouvrage majeur de l'auteur, sociologue français, mort, je le rappelle, le 5 novembre 2003. C'est aussi un ouvrage majeur sur le monde des paysans. Le second livre que nous avons choisi ce soir, c'est « Avec les paysans du monde ». C'est un ouvrage collectif. Les auteurs sont des spécialistes connus venant de tous les continents. Vous pouvez commander ce livre à Marc Olivier, Les Arnauds, A-R-N-A-U-D-S, 38-220, Saint-Jean-de-Vaux, Vaux, V-A-U-L-X. Puis, en troisième position, je mettrai l'Association des écrivains et artistes paysans, AEAP. Le site vous offre un ensemble très varié d'auteurs et d'ouvrages. Vous avez là de quoi vous documenter largement sur le monde paysan et sur la nature. À travers et au-delà la crise qui est mondiale et protéiforme, des renaissances surgissent. Dans la perspective où le paysan est respecté, respecte la terre et sert l'homme, les hommes, le vivant. Face aux défis économiques, sociologiques, culturels, psychosociologiques, des réponses concrètes s'esquissent. La question initiale du diagnostic est fondamentale. Pour cela, Socrate nous le rappelle dans Phèdre, « Il n'y a qu'une manière de commencer quand on veut discuter, dit Socrate à Phèdre, il faut bien comprendre l'objet de la discussion. Autrement dit, de quoi parlons-nous ? Là est le débat et l'écoute réciproque. Et en cela, s'écouter est une étape primordiale pour ensuite agir. Partir de l'actualité, prendre du recul, effectuer un diagnostic, débattre et agir. En cela, la littérature joue un rôle irremplaçable. Il n'y a pas que la présentation d'un livre ou d'un auteur, il y a le vécu, les problèmes du monde et l'apport incomparable de la littérature. Merci à Marianne de sa présence et de son apport de flûte de pan. Il réside à Grasse, Corniche des Oliviers. Marianne a produit plusieurs disques, continue de réaliser des flûtes de pan et effectue des concerts ou participe à des fêtes. Prenez contact avec lui et vous pourrez prolonger votre découverte de ce soir. Nous allons terminer cette émission avec la flûte de pan, avec la Roumanie à qui nous rendons hommage. Je trouve que cette musique va très bien avec le thème de ce soir. Belle soirée et à demain soir pour rendre hommage à Michel Serres.